Gloire à Dieu. Nous allons commencer par lire dans Luc au chapitre 15. Luc au chapitre 15, du verset 11 au verset 24. Ce texte que nos aînés, hein, certains de nos prédécesseurs, considèrent comme étant la plus belle prédication de la Bible, donc forcément de l'univers. Nous allons le relire une fois de plus. Luc 15, 11 à 24. On ne va pas lire toute l'histoire, mais on va retirer la partie qui nous intéresse le plus aujourd'hui. Luc 15, 11 à 24.
Il dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il dit, « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir.
Amen, amen. Et ils commencèrent à se réjouir, donc ça finit par une fête. Mais qu'est-ce qui a manqué depuis si longtemps pour qu'il y ait cette fête? C'était ce fils qui manquait à la famille. Et il y avait une sorte de tristesse. C'est comme nous aujourd'hui, les gens de l'humanité, nous manquons à Dieu au ciel. C'est ce qu'on appelle le festin des noces de l'agneau, la grande fête qu'il y aura au ciel, attend que tous les humains qui doivent être sauvés soient sauvés, afin qu'il y ait cette grande fête. Mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Nous voulons dire aujourd'hui qu'il faut traiter son problème avec Dieu. Il faut voir les choses en face. Il faut faire face à son problème. Et travailler, parler de ça, traiter cela avec Dieu pour que la solution soit donnée par Dieu et passer à une autre étape. Ce garçon a commencé vraiment à souffrir. Il a commencé à souffrir. Il n'avait plus d'argent. Il commença à chercher du travail. Lui qui était fils de patron, fils d'un homme très riche, il commença à chercher du travail comme tout le monde et il n'en trouvait même pas. Et lorsqu'on lui a donné le travail, on lui a donné un travail rabaissant, choquant, choquant pour un juif. Garder les cochons, c'était choquant pour un juif. En ce moment-là, il pouvait se dire, mais je ne peux pas continuer ainsi. Mais il a continué encore à travailler. Donc déjà, quand tout l'argent est fini, il pouvait dire, je ne peux pas continuer ainsi, je rentre. Même si je dois rentrer comme un esclave, ce n'est pas grave. Je rentre. Mais il a continué. Il ne trouve pas de travail, il continue toujours à ce qu'on appelle en français la fuite en avant. Donc tu continues dans une voie sans issue parce que tu ne veux pas faire pause et traiter le problème, tu continues. Fuite en avant. Et ce garçon continuait. Il est arrivé au moment où il a commencé à manger la nourriture de cochon. Il continuait toujours à souffrir ainsi et à faire souffrir la famille qui était triste de ne pas le voir. La fuite en avant. Jusqu'au moment où il a commencé à manger moins bien que les cochons. Donc, les cochons mangeaient mieux que lui maintenant. Là, il a dit, là, ça ne va plus. C'est trop. Je veux faire face à mon problème. Je veux faire face à mon problème. Mon problème, c'est que j'ai péché. J'ai réclamé de l'argent à mon père alors que ça lui appartenait complètement. Normalement, le papa pouvait refuser, dire non, cet argent, c'est à moi. Je ne te donne rien du tout. Si tu veux t'en aller, tu pars. Mais le papa a donné la moitié, une grande part qui revenait, qu'il a considéré comme normal à donner à son enfant alors qu'il n'était pas obligé. Il comprend que déjà là, ce n'était pas bon. Il n'avait pas à réclamer ça. Il n'avait aucun droit. Dieu veut nous parler aujourd'hui. Il veut que nous fassions une halte, qu'on s'arrête et qu'on analyse la situation, qu'on traite le problème que nous avons avec lui. Il ne faut pas faire de fuite en avant. Reconnaître que la colère que tu as contre lui, en réalité, tu n'as aucun droit à cela. Parce que c'est lui qui t'a créé. Et du moment qu'il t'a créé, il peut faire de toi ce qu'il veut. Tu es une créature de quelqu'un. Et ce garçon était dans la même situation. Il ne voulait pas faire le point. Il ne voulait pas traiter son problème. Parce qu'il savait qu'en traitant le problème, il trouverait qu'il a tort. Il savait qu'en traitant le problème, il verrait bien qu'il mange comme les cochons. Parce que je pense que quand il gardait les cochons, il faisait comme les gens qui sont ivres. Tu bois pour ne pas voir, pour ne pas oublier. Il devait se dire, ce ne sont pas des cochons. Mais c'était des cochons. Parce que s'il disait, c'est vraiment des cochons, ça, c'est horrible, c'est humiliant pour un juif. Il serait obligé de traiter le problème. Et il faisait ce qu'on appelle, toujours en français, en psychologie, le déni. Il était dans le déni. Un juif ne peut pas garder les cochons, mais il le faisait. Au lieu de considérer le problème, il ne voulait pas. La plupart des problèmes que nous avons sur terre, qu'est-ce qui freine, je pose la question autrement, qu'est-ce qui freine notre marche avec le Seigneur? Qu'est-ce qui freine le plan de Dieu pour nous sur terre? C'est le refus de faire face au problème. Le refus de traiter le problème, de traiter son problème. Je passe de le problème à son problème parce que au début, on trouve ça comme étant un problème. Mais en réalité, quand on creuse, quand on commence à traiter, on se rend compte que c'est ton problème, c'est mon problème. Voilà, ce n'est pas un problème, c'est ton problème. Et son problème à lui, c'était qu'il avait péché. Il avait pris l'argent d'autrui, l'argent de son père. Ce n'était pas son argent, il a mis la pression, il a pris. Son problème à lui, c'est qu'il avait péché en allant avec les prostituées, en faisant de la débauche. Son problème, c'est qu'il avait échoué parce qu'il pensait que la vie de liberté, loin de son père, allait être une vie satisfaisante et gagnante. Il avait échoué, il n'avait plus rien du tout. Il ne voulait pas voir ça en face, que tu n'as plus rien. Tu avais des millions, tu n'as plus rien. Traiter le problème, c'était admettre ça. Vous savez, c'est comme certaines personnes qui se sentent mal et qui ont peur de faire des examens médicaux. Ils ont peur qu'on trouve en eux un cancer. Ils ont peur qu'on trouve en eux une maladie incurable. Ils ont peur qu'on trouve en eux quelque chose qui est à la mode, qui fait peur. Et ils préfèrent faire semblant de ne pas être malade parce qu'ils ont peur de faire face au problème, de traiter le problème. Ne retardons pas. Traitons notre problème avec Dieu. Quel est notre problème? Qu'est-ce qui freine notre parcours? Qu'est-ce qui freine le plan de Dieu dans nos vies? Il n'y a pas que ce qui freine, il y a aussi qu'est-ce qui nous fait mal? Quel est notre souci aussi? Voilà. Quelle est ta détresse? Quelle est ta souffrance? C'est ça aussi un problème qu'on peut avoir. Au lieu de traiter ça, on connaît plus ou moins la solution de Dieu. On ne préfère pas traiter parce qu'on n'aime pas la solution de Dieu. On connaît plus ou moins ce que Dieu va nous dire et on préfère ne pas dire le problème clairement. On va dire les choses autrement. Bien-aimé, j'ai réfléchi à ce que je suis en train de dire à partir du moment où je me suis posé la question, mais pourquoi quand j'étais catholique, je ne voyais pas quand les gens qui n'étaient pas catholiques m'expliquaient que j'étais dans l'erreur, j'étais dans un mauvais système. Je me disais, mais pourquoi c'était pas clair pour moi de quitter? Voilà, j'ai fini par comprendre que le problème, ce n'était pas le catholicisme, le problème, c'était moi. Je ne voulais pas encore de Dieu, je ne voulais pas encore de la vérité, c'est pourquoi je ne quittais pas le catholicisme. Je ne quittais pas le catholicisme parce que j'aimais trop le catholicisme, c'est parce que le problème, c'était moi. Et c'était toujours des fuites en avant. Oui, mais je suis catholique, mais je n'adore pas les statues. Ah, mais oui, mais vous priez Marie. Non, moi je suis catholique, mais je ne prie pas Marie, je reste catholique. Voilà, en réalité, je ne cherchais pas Dieu. Je ne cherchais pas la vérité. Le problème, c'était moi. Le problème, c'était pas le catholicisme. Quand j'ai compris ça, j'ai dit, mais finalement, dans tout ce qui se passe sur terre, le problème, c'est nous-mêmes. Il faut traiter son problème avec Dieu. Le jour où j'ai eu soif de Dieu, le jour où j'ai cherché la vérité, j'ai quitté rapidement le catholicisme. Parce qu'en réalité, le problème, c'était moi. Beaucoup de gens qui soutiennent l'islam, qui soutiennent telle secte, telle fausse doctrine, c'est pas parce qu'ils sont, ils aiment trop ça, c'est parce que le problème, c'est eux. Le problème, c'est qu'ils sont devenus très orgueilleux et du coup, ils défendent leur fausse religion comme quelqu'un défendrait sa famille. Que sa famille soit mauvaise ou bonne, une personne défend toujours sa famille, comme quelqu'un défendrait son pays. Les États-Unis ont fait beaucoup de mal à beaucoup de personnes, à beaucoup de pays, à beaucoup de personnes, mais même à beaucoup d'Américains. Mais quand il s'agit de défendre le pays, les Américains vont défendre leur pays, même s'il y en a qui souffrent là-bas, puisque c'est leur pays. Dans les équipes de football, même si ton équipe perd 10 matchs, ça reste l'Olympique de Marseille, ce n'est pas ton équipe. Tu vas défendre quand même l'Olympique de Marseille, même si l'équipe qui est dernière au classement. C'est comme ça qu'en réalité, on peut voir que le problème, c'est l'homme. C'est l'homme qui est devenu orgueilleux. C'est l'homme qui ne veut pas voir les choses en face. Et c'est le cas de cet enfant. Si ça a traîné, parce que moi je me suis toujours posé la question, mais pourquoi il n'est pas rentré dès qu'il a vu que ça n'allait pas, il n'y avait plus d'argent? Pourquoi il n'est pas rentré? Pourquoi attendre de souffrir jusqu'à manger moins bien que les cochons? Le problème, c'est la fuite en avant. Le refus de traiter son problème. Plus tu retardes ton problème, plus tu vas entrer dans la souffrance. Plus tu retardes le temps de traiter le problème, plus tu subiras des souffrances, des difficultés. Et c'était le cas de cet enfant-là. Il faut traiter son problème. Et quand tu traites le problème, vous voyez la solution, quand ça vient, c'est extraordinaire. Il est revenu à la maison. On lui a mis l'anneau. Mettez-lui l'anneau, amenez une nouvelle robe. Amenez des chaussures. La fête, tuez le veau gras. Mais c'est ça, quand on traite le problème avec Dieu, on passe d'une étape d'hésitation, de difficulté, à la gloire, à la paix. Même s'il y a la souffrance qui peut continuer toujours, mais c'est la paix dans la souffrance parce qu'on a traité le problème. Je me souviens, quand j'étais très, 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 dans les années 2016, quand j'ai eu ma crise qui me faisait beaucoup de douleur au niveau du bras, du dos et du cou, la douleur était tellement forte que je ne pensais qu'à la douleur. Je ne pensais qu'à la douleur et je pouvais échanger tout de ce que je pouvais avoir comme richesse ou force ou santé à part cette douleur pour voir cette douleur finir. Tout ce que je pouvais discuter avec Dieu, c'était que cette douleur s'en aille. Mais le jour où j'ai traité le problème, parce qu'il faut traiter le problème. Quand on est triste, quand on est malheureux, il y a un problème. Il faut le traiter. Maintenant, on fait toujours la fuite en avant. On dit, c'est à cause de la douleur. Non, non, ce n'est pas à cause de la douleur. Le problème est ailleurs. Un matin, je me suis réveillé. À 6 heures du matin, il n'y avait pas la douleur. Et puis, vers 8 heures, la douleur a recommencé. J'ai senti en moi une colère venir. Bien sûr, toujours la colère contre Dieu. Une colère a commencé à venir. Après, je me suis ressaisi. J'ai dit, le problème, ce n'est pas la douleur. Le problème, c'est moi qui n'accepte pas la volonté de Dieu. J'ai fait la prière suivante. J'ai dit, Seigneur, douleur ou pas douleur, je suis à ton service. Je t'appartiens. Quand j'ai fait cette prière, la douleur n'est pas partie, mais il y a une paix qui est venue du ciel, qui est entrée en moi et c'était fini. Douleur ou pas douleur, j'étais bien. Le problème, c'est nous. On doit traiter un problème en nous avec Dieu. Traiter les choses clairement. Tu vas dire, mais c'est la douleur qui me... Si on m'enlevait la douleur, tout serait fini. C'est ce que tu crois. Si on t'enlève la douleur, après tu diras, mon problème, mais le compte bancaire est vide. Mais on te remplit le compte, ça va devenir... Ah oui, mais je n'ai pas une santé parfaite. Ah, ça sera toujours autre chose. Le vrai problème que j'avais, c'était de dire, j'appartiens à Dieu, qu'il fasse de moi ce qu'il veut. Quand j'ai dit cette phrase, c'était fini. J'étais en paix, tranquille. Je pensais que le problème, c'était la douleur. Ce n'était pas la douleur, c'était ma relation avec Dieu. Cet enfant a traîné parce qu'il ne voulait pas traiter son problème. C'est pourquoi il a traîné dans la souffrance. Nous devons traiter notre problème. C'est quoi qui te rend triste? C'est quoi qui te rend malheureux? Il faut traiter ce problème. C'est quoi qui te freine? Il faut traiter ce problème. Il ne faut pas faire la fuite en avant en disant « c'est la faute d'un tel ». Non, traite ton problème avec Dieu. Ce n'est pas la faute de quelqu'un d'autre, c'est ton problème. Nous lisons dans Luc 18, 18 à 30. Luc 18, 18 à 30.
Un chef interrogea Jésus et dit, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui répondit, « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. » « J'ai, dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Jésus, ayant entendu cela, lui dit, il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste, car il était très riche. Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, dit, « Qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Ceux qui l'écoutaient dirent, « Et qui peut être sauvé ?» Jésus répondit, « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. » Pierre dit alors, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Et Jésus leur dit, « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause du royaume de Dieu, sa maison ou sa femme ou ses frères ou ses parents ou ses enfants, ne reçoivent beaucoup plus dans ce siècle-ci et dans le siècle à venir, la vie éternelle. »
Amen, amen. Ce monsieur riche, non seulement il était riche, il était correct aussi. Lui-même, il le dit, il accomplit les commandements depuis qu'il est jeune. Donc, c'est un homme correct, un homme droit. Mais il était malheureux. C'est pourquoi il est venu chercher Jésus. Au fond de lui, il sentait pourquoi il était malheureux. Au fond de lui. Mais il était dans la fuite en avant en pratiquant les commandements. Je ne vais pas toucher à la femme d'autrui. Je ne vais pas voler. Je ne vais pas mentir. C'est bon. Mais au fond, ça ne va toujours pas. Ah, je vais aller donner l'argent au temple. Il a amené l'argent au temple, mais ça ne va toujours pas. Au fond de lui, il sait qu'il y a un problème. Et il sent bien quel est le problème, mais il ne veut pas traiter ça. Il continue à ne pas voler, ne pas mentir, ne pas taper, aller tous les jours au temple donner l'argent pour fuir le vrai problème. Maintenant, quand il vient face à la lumière, Jésus dit, je suis la lumière du monde. Quand tu viens en face de Jésus, il t'éclaire et tu vois le problème clairement. Il te montre le problème clairement. Jésus lui dit, le problème, c'est que tu appartiens à deux maîtres. Tu as l'argent pour maître et tu veux avoir aussi Dieu pour maître. C'est incompatible. Dieu n'accepte pas qu'on ait deux maîtres. Il n'accepte pas ça. Vous voyez, bien-aimés, Dieu veut nous montrer le vrai problème que nous sentons déjà, que nous fuyons. Mais il va créer des circonstances pour nous amener à faire face au problème et à décider. Ça ne veut pas dire qu'on va décider forcément dans le bon sens, mais au moins à décider que les choses soient claires. C'est la première étape. Là, la première étape, ça a été « Vends tous tes biens et suis-moi ». Une façon de Jésus de lui dire « Ton problème, c'est que tu aimes tes richesses plus que Dieu ». Puisque cet homme a dit quoi ? Il a dit, je pratique tous les commandements, sans problème, depuis que je suis jeune. Mais pour beaucoup de personnes, les commandements de Dieu, c'est de ne pas voler, ne pas mentir, aller prier. Non, le vrai commandement de Dieu, c'est tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Quand on a posé la question à Jésus, quel est le commandement que tu nous laisses? C'est ce qu'il a laissé comme commandement. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et ce commandement se trouve déjà dans l'Ancien Testament. Ce n'est pas Jésus qui l'invente. C'est déjà dans l'Ancien Testament, mais ce n'est pas dans la liste des 10 comme ça. Mais c'est dit après, dans la loi de Moïse, c'est dit. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est dit. Il rappelle Au fait, il ne le dit pas ce commandement, mais il veut dire, mais toi qui pratiques, tu me dis que tu pratiques tous tes commandements, il y a un commandement qui fait un problème chez toi. Vends tous tes biens et suis-moi, tu pratiqueras ces commandements-là. C'est-à-dire, puisque tu me dis que je suis bon maître, et que moi je te dis qu'il n'y a que Dieu qui est bon, si moi je suis bon, donc je suis Dieu. Donc écoute-moi, et vends tous tes biens et suis-moi, puisque tu es censé m'aimer plus que tout. Il est écrit, le jeune homme s'en est retourné tout triste. Il connaissait son problème et il voulait dévier. Il voulait gagner du temps par la religion. Il y a des gens qui gagnent du temps par la religion, par les activités à l'église, voulant cacher leur vrai problème, mais ils sentent bien quel est leur vrai problème. Ils sentent bien. Et lui aussi sentait, mais il fuyait par les commandements, pratiquant les commandements, ne pas mentir les 10 commandements, et en donnant des choses au temple. Jésus dit, ton vrai problème, c'est que tu n'appartiens pas à Dieu seul, tu appartiens aussi à l'argent. Bien-aimé, traitons notre problème. Il faut traiter notre problème. C'est ça qui permettra une avancée puissante dans le plan de Dieu. Il faut que le problème soit traité. Et ce monsieur-là, il paraît, hein, ce monsieur qui a riche, qui a fait demi-tour, il paraît qu'il est revenu plus tard. Les gens pensent que c'est lui dont il est question dans l'évangile de Marc. Voilà, c'est lui dont le vêtement avait été enlevé, voilà, et qui a couru tout nu. Les gens disent, voilà, historiquement, il paraît que c'est lui, mais il semble avoir été choqué la première fois, dans la tristesse, mais pour bien décider et revenir. C'est, même Jésus donne cet exemple-là de la parabole de deux fils. Il y a un papa qui a dit à son fils, va faire quelque chose. Il dit, non, je ne veux pas. Et il dit au deuxième, va faire la même chose. Le deuxième dit, c'est bon, je vais le faire. Mais le deuxième qui avait dit, je vais le faire, il n'a pas fait. Celui qui a dit, je ne veux pas, lui, il est parti plutôt faire. Voilà. Ce qui compte, c'est obéir finalement. Ce n'est pas les belles paroles. Voilà. Ce garçon-là, il paraît, ce jeune homme, a fini par revenir après avoir pris un certain temps. Mais il fallait que le problème soit traité, qu'on lui montre d'abord par le microscope, par les examens médicaux, voilà ton problème. Ton problème, c'est que tu aimes l'argent plus que Dieu. Voilà. Bien-aimé, il faut qu'on traite notre problème. Qu'est-ce qui nous bloque? Qu'est-ce qui ne nous permet pas d'avancer? Il faut qu'on traite cela. Quel est aussi notre souci, hein? Voilà. Ça peut être un souci, une souffrance, mais il faut poser cela devant Dieu et traiter l'affaire avec Dieu. Nous lisons Luc 22, 39 à 46. Luc 22, 39 à 46.
Après être sorti, il alla, selon sa coutume, à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit « Priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Puis, il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre et, s'étant mis à genoux, il pria, disant « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre.
Amen. Voilà. Ce texte, on n'a pas fini, hein. Voilà. Nous continuons, 45.
Après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples, qu'il trouva endormis de tristesse. Et il leur dit, « Pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation.
Voilà, levez-vous et priez. Voilà. C'est dans la prière que nous traitons le problème avec Dieu. Nous allons dans la prière pour discuter avec lui, pour dire clairement, comme Jésus l'a fait. Là. Le problème, ce n'était pas Pilate. Le problème, ce n'était pas les Romains. Le problème, ce n'était pas les Juifs. Le problème, c'était quoi? La volonté de Dieu pour Jésus. Jésus se présente devant Dieu et dit, « Ah, je suis embêté par toutes les souffrances qui vont venir, l'humiliation. » Lui, il voyait déjà ça, il avait déjà vu ça, tout ce qu'il allait vivre. « Je suis embêté par ça. » Il a dit son problème, vous voyez l'honnêteté de notre maître. Il a dit, « Si tu voulais éloigner cette coupe de moi, Si tu pouvais éloigner cette coupe de moi, est-ce que tu veux, tu ne voudrais pas éloigner toutes ces souffrances qui m'attendent? C'est lourd, Père. » Il a dit son problème. Mais il aimait beaucoup son Père. Même si c'était un problème ce qui lui arrivait, il a dit, mais dans tous les cas, je préfère faire ta volonté. Donc le problème, c'est là. Était-il prêt à accepter la volonté de Dieu, quelle qu'elle soit? Finalement, oui. Mais c'était ça le problème. Le problème, ce n'était pas les Romains. Le problème, ce n'était pas la croix. Le problème, ce n'était pas les clous dans les mains. Le problème, c'était, est-ce que Jésus est prêt à accepter la volonté de Dieu? C'était ça qu'il fallait régler. Et quand il a réglé ça, il a dit, que ta volonté soit faite. Il y a un ange qui est venu du ciel lui donner la force. Il s'est levé. Il pouvait maintenant encourager ses frères, dire, levez-vous, priez. C'est dans la prière que vous allez régler, traiter les choses et recevoir la gloire de Dieu pour affronter maintenant ce que vous considériez comme problème avant. Le vrai problème d'un chrétien, c'est faire la volonté de Dieu. C'est ça qui nous embête tous, qui nous rend tristes. Parce qu'on sent bien, nous sentons bien en nous-mêmes que nous ne sommes pas dans la volonté de Dieu. Et au lieu de traiter le problème, fuite en avant, prière à gauche, attitude de sainteté, je ne vole pas, je ne mens pas. Mais oui, mais est-ce que tu appartiens au Seigneur? C'est ça le vrai problème. Jésus a réglé son problème. Il a dit que ta volonté soit faite. Et dès que tu règles ça, comme j'ai donné mon exemple sur la douleur, quand j'ai dit que ta volonté soit faite, quand j'ai dit, Seigneur, je t'appartiens, j'accepte ta volonté. D'un coup, c'est comme si le ciel s'est ouvert ce jour-là. La douleur n'est pas partie, mais j'étais bien. J'ai démarré maintenant la journée en puissance. Puisque le ciel était ouvert maintenant. Le ciel était comme fermé. Vous savez, quand nous ne sommes pas dans la volonté de Dieu, le ciel, il est comme fermé pour nous. Nous ne sentons pas la gloire. Nous ne sentons pas la paix. Nous ne sentons pas l'assurance, l'apaisement. Le ciel, il est fermé. Mais dès qu'on dit que ta volonté soit faite, le ciel s'ouvre. Les anges descendent, ils viennent te porter. Allez, nous allons avec toi t'accompagner dans la lutte, dans le combat. Nous avons à régler notre problème, à discuter avec Dieu dans la prière, à être honnête, à dire, il peut y avoir aussi des problèmes de péché, à dire clairement, Seigneur, j'aime beaucoup les belles voitures, ça me séduit beaucoup, les belles voitures, et c'est mon problème. Parfois, je tombe dans la jalousie à cause de ça. Seigneur, j'aime beaucoup la nourriture. Voilà, tu dis ton problème. Tu dis, mais c'est ça mon problème. Mais au fond de moi, je sais que le meilleur choix, c'est de te suivre. Alors, aide-moi. Il faut traiter son problème, dire, Seigneur, il est vrai que j'aime avoir tout le temps raison. Mais au fond de moi, je sais que je dois être humble. Mais tu présentes le problème à Dieu, tu dis, mais aide-moi. Mais il faut traiter. Présenter le problème à Dieu dans la prière, discuter avec lui. Traiter son problème, ne pas laisser le problème demeurer. Ça produira comme pour l'enfant perdu des souffrances. Il faut traiter. Et quand tu te présentes devant Dieu, en disant, mon problème, c'est mon patron. Il parle mal. Mon patron, il ne travaille pas beaucoup, il vient là, il boit, il s'en va, et c'est nous qui faisons le travail. Seigneur, ça m'énerve, c'est ça mon problème. Dieu te dira, le problème, c'est toi. Tu n'as pas compris le texte de Jacob. Jacob a été exploité par son patron, son beau-père. Il a été exploité pendant 14 ans. Mais après, quand Jacob est parti, Dieu lui a donné une idée d'un système en influence que son beau-père avait mis une méthode, a voulu qu'il y ait une méthode pour que Jacob prenne des bêtes et lui aussi en prenne. Il croyait que sa méthode allait l'avantager. Dieu a donné à Jacob une idée pour contourner la méthode de son beau-père. Finalement, Jacob s'est retrouvé avec tout le bétail de son beau-père. Finalement, les 14 ans, quand il travaillait, ce n'était pas pour son beau-père, c'était pour lui-même. Mais en ce moment-là, il ne savait pas. Lui, il croyait être exploité. Mais le jour où il devait se séparer, quand ils ont fait la méthode de séparation des biens, Jacob s'est retrouvé avec tout ce qui était à son beau-père finalement. Son beau-père n'a eu presque rien du tout. Jacob finalement a récupéré tout ce qu'il avait fait comme travail pendant 14 ans, alors qu'il croyait être exploité. Dieu te dira, un enfant de Dieu, on ne l'exploite jamais. Oh, c'est impossible. Jacob pendant 14 ans croyait être exploité, mais à la fin tout est revenu à lui-même. Dieu te dira, lis ce texte-là. Vous savez, depuis qu'on avait fait l'étude biblique sur ce texte-là, où que je sois, si on m'exploite et je suis content, je me dis, je travaille pour moi-même. Ça me reviendra à la fin. Et quand Dieu t'explique ça, tu dis, ah d'accord Seigneur. Désormais, je vais être soumis à mon patron. Désormais, je vais faire même le travail des autres s'ils ne le font pas. Ça me reviendra un jour. Tu es en paix parce que tu as traité le problème. Tu l'as présenté à Dieu. C'est très important. Il faut traiter la chose. Jésus a traité. Il a dit, les souffrances me font peur. Je suis déstabilisé. Je transpire. Je vois tout ce qui va m'arriver. Quelle humiliation. On va se moquer de moi par n'importe qui. Mais que ta volonté soit faite. Le problème est réglé. Bien-aimé, traitons le problème. Quel est notre problème? Quel est ce problème qui nous cause des souffrances? Quel est ce problème qui est un frein pour nous? Présentons-le à Dieu. Traitons ce problème. Et soyons prêts à accepter la réponse de Dieu. Parce que la plupart des gens, vous savez pourquoi nous ne traitons pas le problème? Parce que nous sentons bien qu'est-ce que Dieu va nous donner comme réponse. Alors nous ne voulons pas traiter, parce que si nous traitons le problème, nous allons vraiment entendre cette réponse-là clairement. Alors nous préférons la fuite en avant. Faire des choses pour ne pas traiter le problème, pour ne pas penser au problème. Parce que nous sentons bien qu'est-ce que Dieu va nous donner comme réponse. Nous savons bien qu'il va dire, bon, laisse tomber. Donne à ton ami qui te réclame ça, donne-lui ce qu'il te réclame. Oh, Seigneur, c'est faux ce qu'il dit. Donne-lui. Mais tu sens bien que c'est ce que Dieu va dire, alors tu préfères ne pas traiter clairement le problème. Mais en faisant ça, tu laisses au diable le temps de travailler dans ta vie. Il faut traiter le problème, régler le problème. Jésus est parti loin jusqu'à dire, quand tu veux donner les offrandes, règle d'abord les problèmes. Il faut traiter d'abord. Comme ça, le diable ne peut rien contre nous. Comme ça, la gloire de Dieu peut se manifester. Quand Jésus traite son problème, un ange vient le fortifier. Il part à la croix, tranquillement, en souffrant, mais en paix. Il y a un frère qui avait eu une vision de la croix. Il voyait Jésus à la croix, dans la souffrance, mais joyeux. Il ne comprenait pas cette contradiction-là. Comment quelqu'un peut être dans la souffrance, mais joyeux? Mais joyeux par la présence de Dieu. Joyeux parce qu'il savait que là, ça y est, je sauve mes frères les humains. Mon objectif est atteint. Tout est accompli. C'est fini. À la croix, il dit c'est fini. Mais en souffrant. La puissance, la présence des anges, la paix de Dieu dépassait la souffrance en puissance. Parce que le problème a été traité à Gethsemane. À Gethsemane, il a traité le problème. Il a dit que ta volonté soit faite. Il faut traiter le problème. Bien-aimé, nous clôturons avec Luc 9, 10 à 17. Luc 9, 10 à 17.
Les apôtres, étant de retour, racontèrent à Jésus tout ce qu'ils avaient fait. Il les prit avec lui et se retira à l'écart, du côté d'une ville appelée Bethsaïda. Les foules l'ayant su, le suivirent. Jésus les accueillit et il leur parlait du royaume de Dieu. Il guérit aussi ceux qui avaient besoin d'être guéris. Comme le jour commençait à baisser, les 12 s'approchèrent et lui dirent « Renvoie la foule, afin qu'elle aille dans les villages et dans les campagnes des environs pour se loger et pour trouver des vivres, car nous sommes ici dans un lieu désert. » Jésus leur dit « Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils répondirent « Nous n'avons que 5 pains et 2 poissons, à moins que nous n'allions nous-mêmes acheter des vivres pour tout ce peuple. » Or, il y avait environ 5000 hommes. Jésus dit à ses disciples, « Faites-les asseoir par rangées de 50. » Ils firent ainsi, ils les firent tous asseoir. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, et, levant les yeux vers le ciel, il les bénit. Puis, il les rompit et les donna aux disciples, afin qu'ils les distribuassent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient.
Amen, amen. Les disciples de Jésus, ils voient qu'il y a toute une foule qui les suivent depuis un moment et ils n'ont pas mangé, ça fait beaucoup de temps. Ça devient quoi? Un problème. Vous voyez, des femmes, des enfants, des hommes qui sont là, qui écoutent la parole. Mais oui, mais après ils vont manger comment? Ça fait des jours, ils sont un peu loin. Ça devient un problème. Comme c'est un problème, on a tendance à dire quoi? C'est la faute de l'autre. Quand nous voyons les choses comme un problème, nous disons, c'est la faute de l'autre. C'est leur faute. Pourquoi ils sont venus nous suivre alors que nous allions nous reposer? Pourquoi ils sont venus? Jésus, renvoie-les, qu'ils aillent trouver la nourriture. Et c'est bien d'écouter là, Jésus, mais il faut manger. Mais nous, on va faire quoi? Allez, Seigneur, renvoie-les. Le problème, c'est l'autre. C'est à cause de mon mari, c'est à cause de ma femme, c'est à cause de mes enfants, c'est à cause de mes parents, c'est à cause de mes collègues au travail, c'est à cause de mes coéquipières, c'est à cause de mes coéquipiers. C'est à cause de mon patron. Renvoie-les, Seigneur. Et certains prient même que le patron s'en aille, soit licencié. Ils disent, mais qu'est-ce qu'ils ont eu à nous suivre comme ça pendant des heures? Renvoie-les, Seigneur. Le Seigneur dit, ce n'est pas un problème, mais c'est votre problème. Donnez-leur vous-même à manger. Le Seigneur nous montrera toujours que le problème, c'est en nous. C'est ton problème, c'est mon problème, ce n'est pas le problème des autres. Et ils ont dit, renvoie-les, qu'ils aillent manger. Jésus a dit, ah non, c'est vous qui devez leur donner à manger. Voilà. Mais quand souvent on dit c'est un problème, quand nous disons ça, nous avons beaucoup d'arguments. Hein. Vous voyez leurs arguments? Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages et dans les campagnes des environs pour se loger et pour trouver des vivres. Car nous sommes ici dans un lieu désert. Nous sommes dans un lieu désert, nous ne pouvons pas faire quelque chose. Nous n'avons pas de solution. Voilà, souvent, c'est ce que nous disons au Seigneur. Il n'y a pas d'autre solution. S'il n'y avait pas cette personne-là, s'il n'y avait pas la faute de l'autre, il n'y aurait pas de problème. Donc, il faut régler avec l'autre là-bas. Il y a beaucoup d'arguments. Pourtant, moi, j'ai bien fait ceci, moi, j'ai bien fait... Mais à chaque fois, c'est lui qui vient changer les choses. Seigneur, regarde toi-même. Et parfois, si nous regardons au fond du problème, nous allons trouver que c'est toi-même qui avais créé ça. Qui est parti chercher le travail dans cet endroit-là, c'est toi-même. Tu dis que c'est... Maintenant, tu commences à parler comme si c'était ce patron-là qui est le problème. C'est comme si c'était les autres qui étaient... Mais qui a épousé cet homme-là? Qui a épousé cette femme-là? Qui a voulu avoir des enfants? C'est toi! Mais maintenant qu'un enfant fait des problèmes, tu fais comme si c'était la faute de Dieu, la faute des autres. Non! Le Seigneur, malgré tout ce qu'on va dire, il finira par dire, donnez-leur vous-même à manger. C'est à vous de vous occuper. Ah oui, mais les méchants nous embêtent. C'est à vous de prier pour les méchants. C'est à vous de bénir vos ennemis, de faire du bien à ceux qui vous persécutent. C'est comme cela que vous triompherez de cette affaire-là. Ça ne sera plus un problème. Voilà. La réponse du Seigneur, ça sera... Ça doit être réglé en toi qui es en face de moi. C'est ton problème. Parce que moi, je suis ton Dieu. Étant ton Dieu, je peux tout résoudre. Mais il suffit que tu viennes m'expliquer le problème. Moi, je vais résoudre. Donc, c'est que toi, tu n'as pas compris à quel Dieu tu as affaire. C'est mon problème. Si toi, tu me l'amènes. Mais toi, tu ne veux pas me l'amener, tu veux que moi, je règle par rapport aux autres. Non, c'est à toi de m'amener ce problème pour que nous réglions ensemble. C'est écrit ce que je suis en train de dire dans Ésaïe 43, 26. Dieu le dit dans Ésaïe 43, 26. Il dit, viens plaider avec moi ensemble, viens, nous allons travailler pour résoudre les choses ensemble. Maintenant, Dieu attend que nous venions le voir pour que nous résolvions les choses ensemble. Nous, on dit, non, on n'a pas à résoudre ça. Renvoie-les. Une femme suivait Jésus. Hein, en disant, mais Jésus, il y a ma fille qui est malade, fais quelque chose. Elle criait, elle pleurait, elle gémissait. Les apôtres, n'ayant pas de solution, disent à Jésus, renvoie-la, elle dérange. C'est ça le comportement des chrétiens. Ah non, non, non. Les Français sont méchants, ils n'aiment pas Dieu, c'est des athées. Oh Seigneur, viens nous chercher pour qu'on nous amène au ciel, quoi. Jésus dit, mais c'est ça votre réaction? Pourquoi vous êtes sur terre? Pourquoi je vous ai placé en France? Pour manger le camembert? Pour manger les saucissons? Je vous ai placé en France pour être la lumière de la France, pour sauver les Français. C'est pas pour regarder le Tour de France à la télévision. Les gens disent, mais c'est leur problème. Renvoie-les. Jésus a montré aux apôtres que c'était aussi son problème. Il a guéri la fille de cette femme-là. C'est notre problème. Vous savez que j'allais finir, les gens qui me connaissent savent que j'allais finir par ce que je veux dire. Le salut de l'humanité. Moi, c'est mon problème. Je le dis vraiment devant témoin à Dieu, c'est mon problème. Je suis souvent triste de voir des gens non sauvés. Je suis souvent pas bien. Même parfois, je perds le goût de la nourriture quand je m'imagine qu'il y a 1 milliard d'Indiens qui ne connaissent pas Jésus. 1 milliard de Chinois qui ne connaissent pas Jésus. Quand je vois des gens consacrer leur vie au fromage, on appelle quelqu'un maître fromager. Il est spécialiste du fromage, bien aimé. Je me dis, mais au lieu d'être lecteur de la Bible, il est spécialiste du fromage, mais ça va l'amener où? C'est ça mon problème. Je dis, mais Dieu, maintenant, quand tu viens lui présenter, tu dis, mais regarde la situation, il dit, ben voilà. Prends ce problème-là. Fais des projets par rapport à ce problème avec moi, Dieu. Mais je te veux à 100%. Bien-aimé, bientôt nous allons commencer une prière, une fois par semaine, matinale, intercession pour les nations et la France, pour le salut de la France et des nations. C'est à cause de ça. Ce que je me dis, mais comment nous pouvons supporter de savoir qu'il y a 1 milliard d'Indiens qui ne connaissent pas le Seigneur? Nous ne pouvons pas rester comme ça. Il faut un moyen de parler à Dieu, dire, mais non, mais c'est quoi? C'est comment pour l'Inde? C'est comment pour la Mauritanie? C'est comment pour l'Arabie Saoudite? Nous n'avons que toi. Nous, bien-aimés, nous refusons de fuir le problème. Nous refusons la fuite en avant. Nous préférons amener les choses à Dieu. Voilà. On va instaurer cette prière-là une fois par semaine, une prière matinale. Mais ça sera sur YouTube et sur Zoom afin d'intéresser les chrétiens à prendre, à considérer le problème qu'on peut dire c'est le problème de Dieu dans sa toute puissance. Il est partout. Que ça soit notre problème, comme ça a été le problème de Jésus. Jésus a donné sa vie. Il n'a pas dit c'est le problème de papa. Il a dit. Dans Ésaïe 59, 16, c'est dit, Dieu cherchait qui va aller. Et son bras lui est venu en aide. Dans Psaume 40, c'est dit aussi, tu n'as voulu ni sacrifice, tu n'as voulu ni holocauste. Dieu était fatigué des faux sacrifices des humains, de la fausse religion. Mais tu m'as formé un corps. Jésus dit, ben fais-moi un corps et envoie-moi pour sauver mes frères, mes nouveaux frères. Il a pris le problème sur lui-même. Bien-aimés, prenons le problème sur nous-mêmes. Donnez-leur vous-même à manger. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Allez, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. C'est votre problème maintenant que vous êtes devenus mes fils. C'est les humains de notre famille. Vous savez, qu'est-ce qui fait que nous pouvons avoir de l'amour pour tous les humains, c'est considérer que ce sont nos humains que nous avons créés. Puisque c'est nos pères, notre Père qui les a créés, c'est des humains qui appartiennent à notre famille. Nous n'allons pas les laisser dans le péché, dans le mal, dans la destruction. C'est à nous tous, nous sommes devenus des fils des filles de Dieu. Les Arabes sont nos créatures, les Chinois sont nos créatures. Les Suédois sont nos créatures puisque nous appartenons à la famille de Dieu. Donc c'est la famille de Dieu qui a créé tout ça. C'est Dieu qui a fait. C'est le papa qui a fait. Donc ça appartient à notre famille. Donc comment tu peux laisser les choses de notre famille, de la famille, ne pas s'intéresser à cela? S'intéresser qu'à soi-même. C'était le fils prodigue, ce fils perdu. Il ne s'intéressait qu'à lui-même. Pourtant son père avait beaucoup de choses. Au lieu de s'intéresser, de gérer les choses du papa, lui s'intéressait à lui-même. Moi, je veux faire ma vie. Non. Et considérer les autres choses comme des choses extérieures, c'est faux. Ce n'est pas biblique. C'est notre problème. Donnez-leur vous-même à manger. Il se dit, mais comment ça donnez-leur vous-même à manger? Mais quand ils ont fini par comprendre que c'était leur problème, il est écrit, ils répondirent, nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. Nous avons quand même ça. Ils ont quand même eu le courage de présenter ce qu'ils avaient. Même si ce n'était pas avec une foi totale, mais ils ont quand même présenté les 5 pains et 2 poissons parce que logiquement, nous n'avons même pas présenté 5 pains et 2 poissons. Quand nous faisons face à 5000 hommes, nous n'avons pas présenté 5 pains et 2 poissons. Mais ils l'ont quand même présenté, mais avec des murmures. Mais oui, mais ça va faire quoi tout ça? Mais ils présentent quand même. C'est ce que nous devons faire, bien-aimés. Faire le peu que nous pouvons faire. Même si on n'est pas, nous ne sommes pas très sûrs, nous faisons quand même en disant, je ne peux pas rester indifférent par rapport à la souffrance de l'humanité. Je ne peux pas rester indifférent par rapport au péché de l'humanité. Je veux faire ce que je peux. Participer à la prière des nations. Je peux faire ce que je peux. Distribuer les tracts d'évangélisation. Voilà. Je ne suis pas très sûr de ce que je fais, mais je fais ce que je peux et je m'attends à Dieu. Amen. Je m'attends à Dieu. Il ne nous est pas demandé d'avoir la foi immense comme une pomme. Non, Jésus a dit la foi comme un grain de sénévé. Une petite foi suffit à déplacer des montagnes parce que ça te permet de commencer à faire quelque chose. Quand tu commences, Dieu prend le relais. Voilà. Il nous faut juste la foi pour faire quelque chose, commencer quelque chose. Et pour finir, bien-aimés, nous serons appelés toute notre vie à faire quoi? À traiter les problèmes avec Dieu. Tu as commencé, tu trouves que ça fait des années que tu fais, rien ne se passe. Reviens encore auprès de Dieu, dis à Dieu, mais ça fait des années que je prie. Tu dis quoi? Traiter toujours le problème. Mais ne pas faire semblant comme un bon, faire le bon chrétien. Oh, je crois que Dieu va faire. Je crois que Dieu va faire. Mais au fond de toi, tu n'es pas bien. Au fond de toi, tu es en colère contre Dieu. Mais devant tout le monde, tu dis, je fais confiance. Je fais confiance. Mais dans ton cœur, tu es en colère. Vaut mieux dire à Dieu clairement, je ne suis pas bien parce que ça fait longtemps que je fais, je ne trouve pas. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu m'entends? Voilà. Il faut traiter le problème avec Dieu. Les disciples, quand ils n'ont pas réussi à chasser le démon de la vie d'un enfant, ils ont dit au Seigneur Jésus, mais pourquoi nous n'avons pas pu chasser ce démon-là? Ils ont posé la question, ils ont traité l'affaire. Nous pouvons, après avoir fait quelque chose par la foi, après que nous voyons qu'il n'y a pas de résultat, nous pouvons retourner auprès de Dieu et dire, mais pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Et Dieu te répondra encore. Dieu te parlera. Il te donnera une nouvelle orientation, mais qui finira par dire, prends les choses en main. C'est ton problème. Change ceci dans ta vie et moi je t'utiliserai. Jérémie s'est plaint. Jérémie a dit, mais Seigneur, ma vie est une vie de souffrance. Je ne fais que souffrir. Les gens me détestent. Ils me font souffrir. Dieu a dit à Jérémie, le problème c'est toi. Sépare ce qui est vil de ce qui est précieux. Et tu verras ma gloire viendra sur toi. Ces gens-là, tu les terrasseras. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Le problème, ça sera toujours nous. Parce que nous, nous avons Dieu. Et Dieu est amour et tout-puissant. Donc si nous, nous prenons le problème, nous le présentons à Dieu. Par la foi, nous sommes sûrs de voir la solution. C'est parce que nous-mêmes, nous ne sommes pas en bonne relation avec Dieu que nous ne voyons pas de solution. Nous ne comprenons pas quel Dieu nous avons à faire comme eux. Ils ont dit, mais non, mais nous ne savons pas comment on va faire avec 5000 personnes. On va les nourrir comment? Écoute, renvoie-les. Voilà. Manque de foi, manque de conscience de qui est là. Voilà. Qui est là en face? Qui est notre partenaire? C'est Dieu, notre partenaire. Il peut tout. Il suffit de lui présenter le problème. Ésaïe 43, 26. Présente ton problème. Que chacun de nous présente son problème, sa souffrance. Est-ce que ton problème, c'est l'évangélisation? Ton problème, c'est Tu ne vois pas de miracles. Tu es persécuté. Présente les choses au Seigneur. Maintenant. Seigneur, pour ceux qui sont malades depuis longtemps, nous venons répandre notre plainte devant toi pour la guérison, Seigneur. La guérison miraculeuse. Dans le nom de Jésus, tu nous as promis. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades, ils seront guéris. Ils prendront de breuvages mortels, rien ne leur arrivera. Ils parleront de langues nouvelles. Seigneur, nous voulons expérimenter ta gloire. La gloire promise. Seigneur, nous venons te présenter notre problème du salut de l'humanité. Nous voulons des fleuves d'eau vive qui vont se déverser en France et dans toute l'humanité pour manifester la vérité que Jésus seul est le chemin, la vie et la vérité. Jésus seul sauve, Seigneur. Et que les gens tournent leur cœur vers toi pour se laisser sauver. C'est ça notre désir de vivre ces réveils. De vivre ta gloire. C'est ça notre problème. Notre problème, c'est que nous voulons la supériorité vis-à-vis de la colère, vis-à-vis de toute forme de péché. Supériorité vis-à-vis de l'orgueil. Victoire, Seigneur, totale. Nous voulons avoir la foi en toi, la foi totale. Car tu es bon, amour et puissant. Seigneur, tu écoutes ce que chacun te dit, Seigneur. Et je prie, Seigneur, que l'exaucement ait lieu au nom de Jésus. Nous te bénissons pour tout. Amen. Gloire à Dieu.